Bon, nous allons poursuivre aujourd'hui notre étude sur le livre de l'Ecclésiaste. Comme vous le savez, on est en train d'étudier Ecclésiaste chapitre 7, les versets 13 et 14, et plus particulièrement le verset 13. En tout cas, alors on relit les versets 13 et 14. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Alors, je rappelle qu'on est encore On avait déterminé au début que le plan de ce passage-là comprenait trois idées. La première, c'était que les afflictions des hommes sont décrétés de Dieu. La deuxième, c'était que les afflictions ne peuvent être évitées ou éliminées par l'homme. Et la troisième, c'était que les afflictions, on se doit de voir la main de Dieu en elles pour bien les vivre. Alors, on est encore dans la première idée. Aujourd'hui, je pense qu'on va terminer la première idée qui est « Les afflictions des hommes sont décrétées de Dieu ». Alors, on avait déjà vu deux leçons qui développaient cette idée-là. Et aujourd'hui, on va terminer par des observations sur le verset 13. Alors, dans notre dernier sermon, nous avons considéré les idées suivantes. Qui a décrété les afflictions des hommes? La deuxième idée, c'est comment les afflictions des hommes arrivent-elles? Et la troisième idée, c'est pourquoi les afflictions font-elles partie du plan providentiel de Dieu? Alors, dans le sermon d'aujourd'hui, nous continuons de développer le premier point, qui est « Les afflictions des hommes sont décrétées de Dieu ». Nous examinerons en particulier le côté pratique de toutes ces choses. Quels sont donc les usages ou utilisations que les chrétiens doivent faire de cette doctrine? L'usage de cette doctrine est triple. D'abord, pour la réprimande. Deuxièmement, pour la consolation. Et troisièmement, pour l'exhortation. Alors, on va d'abord examiner le premier point qui est pour la réprimande. Alors, on relit les versets 13 et 14 pour nous remettre un petit peu dans le bain, comme on dit. Alors, regarde l'œuvre de Dieu, car qui peut redresser ce qu'il aura courbé? Au jour de la prospérité, sois joyeux. Et au jour de l'adversité, prends-y garde. Aussi, Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne trouve rien de ce qui sera après lui. Alors, à qui cette réprimande s'adresse-t-elle? Alors, elle s'adresse à trois sortes de personnes qui sont répréhensibles. La première sorte, aux croyants dont les vies contiennent encore de la mondanité et de la carnalité. Ces personnes qui ne regardent pas avec admiration et révérence le fait que le Seigneur soit celui qui décrète les afflictions des hommes et qui ne se comportent pas comme démontrant qu'elles ont comprise et accepter ce fait. On va aller regarder quatre passages dans les Écritures qui nous parlent de cela. Dans le psaume 28, au verset 5, nous lisons « Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. » Et on va regarder maintenant aussi dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 10, le verset 5. « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme de la boue des rues. Alors, on voit une chose ici importante. On voit un fait. Le Seigneur nous dit qu'il utilise une nation, la Syrie. Il dit « l'Assyrien, verge de ma colère ». Donc, le Seigneur utilise une nation pour corriger quelque chose dans son peuple, Israël. Très important. Alors, il faut, pour que ce soit profitable à Israël, il faut qu'il reconnaisse que c'est Dieu qui a provoqué les Assyriens à les attaquer pour corriger certaines choses. Alors, c'est de prendre... Parce que tu peux voir juste une guerre, « Ah, ils attaquent! » Mais tu ne vois pas le fait que c'est la main de Dieu qu'il utilise. Il dit verge de ma colère. Donc, il utilise une nation comme une verge, un bâton, quelque chose pour corriger son peuple. Un troisième passage est celui de Habacuc au chapitre 1, le verset 12. « N'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. » Alors, on voit à peu près la même idée ici, c'est que le Seigneur est capable de susciter une nation et de faire en sorte... Et le Seigneur ne prend part là-dedans d'aucun péché. Souvent, on sait aussi que dans les Écritures, on lit que le Seigneur utilise une nation qui va venir corriger quelque chose qui est à corriger dans son peuple, mais qu'après, souvent, le Seigneur va utiliser la nation qui lui a servi d'instrument pour corriger son peuple. Parce qu'ils sont coupables là-dedans, parce qu'ils ne font pas les choses. Alors, le Seigneur est très puissant. On a aussi un dernier verset qu'on va regarder, c'est Osée, chapitre 1, et le verset 4. « Et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jézréel, car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jézréel, et je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. » Alors, on voit à l'intérieur de ça quand on dit que la réprimande, c'est que les seigneurs se servent d'événements fâcheux, des afflictions, pour corriger certaines choses chez son peuple. Alors, l'Éternel veut que les hommes voient sa main dans les afflictions qu'il envoie aux hommes, et que ce n'est pas le fruit du hasard. On peut aller lire un passage aussi, un autre passage, dans 1 Samuel au chapitre 6, les versets 1 à 9. Alors, juste pour le replacer dans le contexte, on se rappelle que les Philistins avaient pris l'arche de l'Éternel, ils l'avaient emmenée dans leur pays, et qu'à cause de cela, Dieu les punissait en envoyant des graves problèmes chez les Philistins. Donc, il y avait des souris, il y avait toutes sortes de choses. Alors, on va relire le passage, ça va nous faire comprendre que même les païens, à un moment donné, lorsqu'ils reçoivent des afflictions, un à la suite de l'autre, comme on peut dire, peuvent en arriver à comprendre que c'est la main de Dieu qui provoque ces événements-là pour les corriger ou les punir. Alors ici, on relit le passage de 1 Samuel chapitre 6. On va lire les 9 premiers versets. Alors, ça dit « L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent, « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. » Ils répondirent, « Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité, alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. » Les Philistins dirent, « Quelle offrande lui ferons-nous ? » Ils répondirent, « 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur nous, sur vos dieux, sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exerçait-il pas ses châtiments sur eux? Et ne le laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël? Maintenant, faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis, vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Bathshemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Alors, on sait que l'histoire continue. Justement, ils ont fait cette chose-là. Et ils se sont rendus compte que c'était l'Éternel qui leur a... Alors, ils ont compris. Dieu contrôlait les circonstances de manière à ce que les Philistins comprennent que ce grand mal leur arrive à cause du péché qu'ils ont fait à l'égard de l'arche de Dieu. Alors, on se doit, comme chrétiens, de méditer sur les afflictions que le Seigneur nous envoie, car elles sont parfois des châtiments. On peut lire, par exemple, l'histoire des châtiments dans Hébreux, au chapitre 12, les versets 5 à 9. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils les trouvaient bons. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alors, quand on dit la première chose, le premier groupe de personnes à qui la réprimande, pourquoi le côté pratique, c'est vraiment que le Seigneur se sert. Ici, on est en train d'examiner les trois groupes de personnes qui sont répréhensibles et comment le Seigneur utilise des circonstances affligeantes, les afflictions, pour apporter des corrections, apporter des châtiments, comme on vient de le lire. C'est très intéressant de voir ce rôle-là dans les afflictions. Et lorsque il y a des afflictions qui nous arrivent dans nos vies, il est très sage d'aller devant Dieu. Et comme ça dit dans le verset 14, « Au jour du malheur, réfléchis. » Autrement dit, considère, médite pourquoi le Seigneur possiblement t'envoie ça. Il peut te l'envoyer pour un châtiment. Alors, on a vu que le premier groupe, c'était les croyants dont les vies contiennent encore de la mondanité et de la carnalité. Le deuxième groupe, c'est aux insoumis. On sait qu'on a toute une partie de nous-mêmes qui est insoumis aux ordres du Seigneur et à la volonté du Seigneur. Alors, ce sont les insoumis dont le cœur, comme la mer agitée, s'irrite et murmure constamment. Ils ne peuvent demeurer en repos et sereins dans les afflictions que Dieu leur envoie. C'est la voie la plus pécheresse et la plus dangereuse. On lit par exemple dans Jude, au chapitre 1, il n'y a rien qu'un chapitre, Jude chapitre 1, les versets 16 à 19. Ce sont des murmurateurs, des querelleurs, se conduisant selon leur convoitise, dont la bouche prononce des discours fort enflés et qui admirent les personnes pour le profit qui leur en revient. Mais vous, mes bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs qui marcheraient selon leur impie convoitise. Ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes des gens sensuels, n'ayant point l'esprit. Alors, je pense que ça vient nous montrer que lorsqu'on est dans l'affliction, la soumission est de règle, si on veut le vivre convenablement. Et on peut prendre un autre exemple, par exemple, celui de Nombre 14, versets 26 et 27. Lorsque les Israélites ont murmuré contre Moïse, Dieu les accuse de murmurer contre lui-même. Alors, ce qui est important, c'est à voir. Le peuple murmurait contre Moïse et Dieu parle au peuple et leur dit, « Il ne murmure pas contre toi, il murmure contre moi. » Alors, Nombre 14, versets 26 à 27. L'Éternel parla aussi à Moïse et à Aaron en disant, « Jusqu'à quand continuerait cette méchante assemblée qui murmure contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël par lesquels ils murmurent contre moi. » Très intéressant d'examiner cet outil-là, cette idée-là. La troisième groupe de personnes auquel le fait de la réprimande s'adresse, c'est aux insouciants et aux infructueux. Les négligents ou les insouciants et les infructueux qui ne se conforment pas consciemment au fait de la souveraineté de Dieu dans l'envoi des afflictions et qui ne comprennent pas le Seigneur lorsqu'il se manifeste par ses mots. Écoutez la verge. Alors, le Seigneur utilise parfois cette expression-là, la verge dans sa main. Alors, les circonstances, parfois, c'est la verge du Seigneur. Et le croyant se devrait de les accueillir avec soumission et sérénité. Alors, il arrive que le pécheur fasse preuve de paresse spirituelle et même de stupidité, ne se souciant pas de découvrir la part de Dieu dans la conception de ses afflictions. Il apprend trop lentement et produit peu de fruits et ça ne les amène pas nécessairement à se tourner vers le Seigneur, sinon que tardivement. Donc, on vient de regarder les trois groupes auxquels s'adresse l'outil bien pratique. Le Seigneur envoie un premier usage dit ça, c'est qu'ils en vont pour la réprimande. Donc, la réprimande aux trois groupes qu'on vient de regarder. Le deuxième usage, c'est pour la consolation. Dieu va amener du réconfort à ses enfants affligés. Puisque Dieu est l'auteur des afflictions dans la vie des saints, ceux-ci doivent comprendre qu'elles sont la fabrication de Dieu lui-même. Le chrétien doit les accueillir, bien entendu, avec soumission et sérénité. Puisque c'est ton Père qui l'a fait pour vous, ne vous posez pas la question s'il y a un design favorable dans ces choses, car il y en a un assurément. Regardons, par exemple, un passage qui parle de cela dans le psaume 89, les versets 30 à 37. « Si tes fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes, s'ils n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. » Alors, très important de voir aussi que le Seigneur peut apporter, envoie, mais aussi la consolation qui est là-dedans, c'est qu'il nous promet que la promesse qui est sortie de ses lèvres, l'alliance, il va toujours la respecter, il lui sera toujours fidèle. Très important, très, très important de se souvenir de cela. Alors, Dieu lui-même, on le sait, peut enlever ce qu'il a courbé. Dans le texte, l'expression « ce qu'il a courbé », ce sont les circonstances affligeantes qui arrivent dans nos vies, et ce n'est pas un hasard. Sa puissance, bien entendu, pour enlever ce qu'il a courbé, ou les circonstances affligeantes, bien sûr, ne connaît pas de limite. Dans le psaume 113, les versets 7 à 9, nous lisons « De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants, loué l'Éternel. » Alors ici, il y a plusieurs choses. Il est en train de nous dire que de la pauvreté, le Seigneur peut te faire sortir de là. Du fumier, autrement dit, que c'est quand tu es dans les problèmes, tu deviens indigent, il dit qu'il peut te relever, pour même te faire asseoir avec les grands de son peuple. Il dit, ici, il donne une maison à celle qui était stérile. Ici, il est en train de dire que la femme qui était stérile, il peut permettre qu'elle ait des enfants. Quand on dit une maison, pas une maison physique, là. Il peut donner, autrement dit, une descendance à une femme qui est stérile, comme on peut le voir à l'intérieur des Écritures à maintes et maintes reprises. Il dit, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants, louer l'Éternel. Dans les épreuves et les afflictions, soyons donc patients et confions-nous en sa bonté et en sa miséricorde. Alors, il agira lorsqu'il le jugera convenable en mettant sa main dans nos circonstances pour que l'affliction soit enlevée. Psaume 84, versets 11 et 12. « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Alors, lorsqu'il arrive des afflictions dans nos vies, il faut se confier en l'Éternel et il faut attendre avec patience le moment où lui considérera que le moment d'enlever les afflictions est arrivé. Et le troisième usage, c'est celui de l'exhortation. Alors, puisque les afflictions dans notre lot sont la fabrication de Dieu, habituez-vous à voir la main de Dieu en elle. Soumettez-vous-y pour être agréable à Dieu. Alors, bien sûr, quand on dit « soumettez-vous-y », il y en a des gens qui peuvent amener des objections. Alors, on va regarder quelles objections peuvent être amenées et regarder si leurs arguments tiennent la route, autrement dit, ou si ces arguments-là sont faux. Alors, l'objection numéro un, ces gens-là pourraient dire « les afflictions viennent de la main des hommes et ce sont des choses que je ne mérite pas ». On pourrait donner comme réponse « Dieu peut se servir d'une créature humaine pour provoquer des afflictions dans votre vie. Mais nous devons nous rappeler que la main du Seigneur contrôle le tout. C'est donc ultimement le Seigneur qui vous envoie l'affliction par l'intermédiaire d'une personne humaine. Même si vous considérez que vous ne méritez pas le traitement que Dieu permet, il reste que la main du Seigneur est présente et c'est elle que vous devez percevoir. Dieu utilise des instruments humains ou non, comme cela lui semble bon. » Alors, ceux qui s'objectent, ils pourraient avoir une autre objection, la numéro 2. Ils disent, c'est comme s'ils disaient, « Les instruments humains dont Dieu se sert pour apporter des afflictions aux autres ne sont pas punis pour leurs actions. » Alors, on peut voir la main des personnes dont Dieu se sert pour nous amener des afflictions, et là, tu pourrais dire, « Ben oui, mais Dieu, sont méchants envers moi, puis Dieu ne les punit pas. » Oh, un instant, allons pas trop vite. La réponse, le Seigneur a régulièrement utilisé les nations pour corriger son peuple Israël. Cependant, le Seigneur a aussi puni les nations pour avoir agi ainsi. Leur motif était rempli de péché. On va aller regarder quelques passages. Dans Ésaïe, chapitre 10, les versets 5 et 6, ainsi que les versets 15 et 16. Donc, Ésaïe, chapitre 10, versets 5 et 6. Ensuite, on lira 15 et 16. « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. » Et un petit peu plus loin, dans le même passage d'Ésaïe, chapitre 10, les versets 15 et 16 nous apprennent quelque chose de très, très, très intéressant. Verset 15. « La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève. Comme si le bâton soulevait ce qui n'est pas du bois. » Très intéressant, parce qu'il y a quatre idées là-dedans. On parle de la hache, on parle de la scie, on parle de la verge et on parle du bâton. Et il est en train de dire, le bâton, lorsqu'il est appliqué sur quelqu'un, il y a quelqu'un qui la manie. Et on a tendance, des fois, à voir uniquement soit la hache, soit la scie, soit la verge, et soit le bâton, et non pas reconnaître celui qui la manie pour changer quelque chose en toi. Très intéressant, ce passage-là. Il y a de quoi... Ça fait penser à une histoire qu'un prédicateur avait déjà donnée dans une... où ce que j'étais. Il parlait de... En québécois, on appelle ça un bulldozer, en français, je me souviens pas du nom. En tout cas, le bulldozer, on sait que c'est quelque chose pour enlever de la terre et c'est très puissant avec des. Avec des. Et il y avait une mouche qui était sur le devant de l'endroit qui. L'instrument qui sert à aplanir et à tasser la terre. Il y avait une mouche qui était là-dessus, puis elle dit: est-ce qu'on fait un gros travail? Elle était comme. C'est comme la mouche était sur le devant de la lame qui sert à tasser la terre. Et c'est comme si elle réfléchissait et disait: hé, qu'on a fait un gros travail. Des fois, les êtres humains sont un peu comme ça. On ne voit pas que les événements, c'est pas ni la hache, ni la scie, ni la verge, ni le bâton. Puisque il dit comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève. C'est très intéressant. Ce sera un passage à étudier en profondeur parce que c'est quelque chose qui est extrêmement profond. On a aussi Jérémie, chapitre 10, les versets 19 à 25. Malheur à moi, je suis brisé, ma plaie est douloureuse, mais je dis, c'est une calamité qui m'arrive, je la supporterai. Je le sais, verset 23, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ça dit, dans le verset 24, châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom, car il dévore Jacob, il le dévore, il le consume, il ravage sa demeure. Alors, après avoir regardé, considéré, médité les choses qu'on vient de nommer, toutes ces choses, ces observations devraient nous amener à considérer les choses suivantes. Il y a quatre choses qu'on se doit de considérer. Premièrement, c'est notre devoir que de se soumettre sereinement aux circonstances et aux afflictions que Dieu nous envoie dans sa souveraineté et dans sa bonté, et ceci pour notre plus grand bien. Il n'est jamais avantageux de combattre contre Dieu. Combattre contre Dieu, vraiment, de guillemets. Oui. Mais on va aller voir un passage qui illustre vraiment cette idée-là de combattre contre Dieu dans Acte 5, les versets 33 à 39. Ça dit, furieux de ses paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva devant le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde de ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous affligez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Et on peut voir aussi la même idée dans le chapitre 2 du livre de Job, au verset 10. 9 et 10. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alors on voit que malgré les événements que Dieu permettait qui arrivent, qui étaient des afflictions très grandes dans la vie de Job, Job répondit que nous recevons de Dieu les biens, mais nous ne recevrions pas aussi le mal. Il comprenait que ces choses étaient permises par le Seigneur. Donc, on a parlé des choses qu'on se devrait de considérer, des observations qui devraient nous amener à considérer les choses suivantes. Donc, deuxièmement, c'est une loi inaltérable que pour toute la durée de cette vie, les hommes désireront être épargnés des afflictions. Cependant, nous devons nous rappeler les sages enseignements des Saintes Écritures et agir conséquemment. On le sait, on aimerait tous avoir une vie sans aucune affliction, mais on sait que les Écritures ne nous disent pas cela. Alors, il faut continuellement se le rappeler. Par exemple, on peut lire dans Job, chapitre 5, versets 6 à 17. « Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre. Il envoie l'eau dans les campagnes, il relève les humbles, il délivre les affligés, il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux. Mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. On peut aller regarder deux autres passages. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors ici, il faut se rappeler que c'est les paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous aurez des tribulations dans le monde. On a aussi Actes 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Sachons que le Seigneur est au contrôle absolu de nos afflictions, et il ne nous envoie que celles que nous pouvons supporter et celles qui nous sanctifieront davantage et qui nous sont nécessaires. Et autre chose qu'on se doit de considérer suite à ces choses, troisièmement, les afflictions temporelles et terrestres ne sont rien en comparaison de celles que les rebelles et les ennemis de Dieu subiront en enfer. Ils ne pourront jamais se libérer ou soulager leurs souffrances et ils continueront à pécher contre Dieu. Étant dans la fournaise ardente, leurs scories ne seront ni consumées ni purifiées. Et quatrièmement, la perte causée par la rébellion et l'absence de soumission est très grande. Alors, quand on est dans l'affliction et qu'on se rebelle, c'est quelque chose qui nous amène une perte. On peut lire, par exemple, dans le psaume 119, les versets 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Alors ici, on parle de l'humiliation et l'égarement. Autrement dit, il y a un avantage à être humilié, parce qu'avant, tu t'égarais, mais à partir du moment où Dieu t'a humilié, ça a transformé quelque chose en toi qui fait que tu observes maintenant sa parole. Aussi, on a le Proverbe chapitre 5, dans le livre des Proverbes chapitre 5, versets 11 à 13. « Et que tu ne rugisses quand tu seras près de ta fin, quand ta chair et ton corps seront consumés, et que tu ne dises « Comment ai-je haï l'instruction ?» Comment mon cœur a-t-il dédaigné les réprimandes? Comment n'ai-je point obéi à la voix de ceux qui m'instruisaient, et n'ai-je point incliné mon oreille vers ceux qui m'enseignaient? » Alors ici, on voit, parce qu'il dit, quand tu seras près de la fin, autrement dit, c'est qu'une personne va se rendre compte qu'avec le temps, à l'observation des afflictions que le Seigneur lui a envoyées, en même temps, lui-même va considérer qu'il est en perte de ne pas les avoir écoutés. Parce qu'il dit « Comment j'ai eu l'instruction? Comment mon cœur a-t-il dédaigné les réprimandes? Comment n'ai-je point obéi à la voix de ceux qui m'instruisaient? Et n'ai-je point incliné mon oreille vers ceux qui m'enseignaient? » Alors, quelques applications pour clore cette brève étude. Implorons le Seigneur pour comprendre les raisons sages et miséricordieuses des afflictions qu'il nous envoie. Premièrement, on vient de le voir, on fait une révision un peu, pour notre réprimande, pour nous corriger de notre mondanité et des choses charnelles qui sont à éliminer ou à mieux contrôler dans nos vies quotidiennes, pour que nous apprenions la soumission à Dieu, et que nous nous soucions davantage de notre état spirituel et que nous augmentions notre désir de porter du fruit en abondance. Deuxièmement, on a vu aussi que les afflictions nous sont envoyées pour notre consolation. Faisons pleinement confiance au Seigneur. Confions-nous entièrement en lui. Il agira pour nous soulager lorsque le moment sera convenable à son jugement à lui. Louons-le pour sa sagesse infinie, pour sa miséricorde et son amour insondable, même si nous ne percevons pas toujours adéquatement et suffisamment les raisons. Troisièmement, pour notre exhortation, ne mettons jamais en doute que nos afflictions sont décrétées de Dieu. Ne combattons pas contre Dieu. Méditons sur les enseignements bibliques sur les tribulations. Elles seront présentes dans nos vies comme les étincelles qui volent en permanence au-dessus d'un feu. Mettons nos afflictions en perspective, nous rappelant qu'elles ne sont rien en comparaison de celles de l'enfer. Considérons les avantages des afflictions, même si cela est difficile, elles nous rendent meilleurs. Que Dieu soit loué pour son infinie sagesse dans l'envoi et le contrôle de nos afflictions. Accueillons-les avec sérénité, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.